Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Clash, je suis votre arbitre, Rachel Marsden. Est-ce que Barack Obama devrait pardonner Edward Snowden? Le président américain vient bientôt à la fin de son mandat. Chaque président américain a bien le droit de pardonner tout condamné qu'il veut, ou même de commuer une peine. Dans le cas d'Edward Snowden, ancien employé de la CIA et sous-traitant de la NSA, qui a fui Hong Kong à Hong Kong et ensuite en Russie avec des millions de documents classés et appartenant à la NSA, il n'a pas été condamné, ni même présent à un procès. Et c'est possible qu'il ne le sera jamais. Accordé un visa de séjour dernièrement par l'administration russe, il vit dans les environs de Moscou et sera dépendant des bonnes grâces du gouvernement russe pour y rester. Il y en a qui croient que ce n'est que grâce à ces révélations que le public américain aurait pu apprendre de tous les moyens utilisés par leur propre gouvernement pour les espionner. Il y a d'autres, par contre, surtout dans le domaine des services de l'ordre et du renseignement, qui disent que tout souci du citoyen lambda américain par rapport à de tels programmes et méthodes serait infondé, puisque les autorités ont bien d'autres choses à faire que de fouiller dans les affaires des gens sans qu'ils suscitent un intérêt. L'ancien sous-directeur de la NSA, Chris Inglis, qui fut le patron de Snowden à l'époque où il travaillait au sein de l'agence, m'a dit personnellement que même si cette information serait collectionnée, ce ne serait rien qu'un dérivé de leur mandat de recueillir des données étrangères. En plus, ce n'est pas comme si n'importe qui aurait le droit de les abuser, Inglis m'avait dit, puisque les gens qui travaillent avec ces données au sein des services de renseignement sont gouvernés par des provisions de secret défense et réglementaires très strictes. Et toute infraction pourrait porter de graves conséquences, tout comme le gouvernement américain souhaite que Snowden lui-même apprenne si jamais il retombe entre les mains des autorités américaines. Et ce militantisme envers Snowden de la part d'Obama et du gouvernement américain pourrait bien expliquer pourquoi il refuse de dire autre que Snowden devrait revenir aux États-Unis et faire face à un procès, et que non, il ne serait pas pardonné. C'est assez ironique qu'en demandant qu'on efface, dans son cas, l'application des provisions qui assurent la discrétion des travailleurs des services de renseignement tant qu'elles s'appliquent uniquement à lui, Snowden demande effectivement l'introduction d'un précédent qui risque fortement d'affaiblir les lois qui protègent notre vie privée de ceux qui y auraient accès. Cependant, il y a des groupes tels que Amnesty International qui ont formellement adressé le président américain pour demander qu'il pardonne Snowden, le qualifiant de lanceur d'alerte héroïque, sans qui les citoyens du monde entier n'auraient jamais été au courant des activités de leur propre gouvernement. Mais d'autres, y incluant le journal The Washington Post, qui a même gagné un prix Pulitzer pour leur travail journalistique dont Snowden en était la source, ne souhaitent pas qu'Obama le pardonne. Le problème avec ce qu'il a fait, c'est qu'il a fuité des informations traitant des programmes de renseignement international légitimes et tout à fait défensibles. Il l'accuse d'avoir gravement perturbé des opérations étrangères, ce qui aurait endommagé formidablement la sécurité nationale des États-Unis, d'après le Washington Post. Et il ne faut pas non plus ignorer le fait que c'est bien au gouvernement américain à qui il demande pardon. C'est sûr que les révélations de Snowden ont bien été appréciées par d'autres gouvernements. Il aurait sans doute plus de chances à réussir avec une telle demande auprès d'eux. Et je peux confirmer que ces critiques ont raison sur ce plan-là. Il y a quelques mois, une revue de technologie qui traite du domaine de la défense militaire, pour laquelle je pige parfois, m'avait demandé d'écrire un article de fond sur les stratégies et tactiques cyberoffensives et défensives militaires utilisées présentement contre Daesh. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'était que de telles choses sont sans doute classées secret défense. En fouillant un post sur le web, je me suis tombée sur un fichier très difficilement retrouvable depuis un moteur de recherche, mais qui contenait tous les noms et tous les détails des programmes de la GCHQ, l'équivalent britannique de la NSA. Les deux agences font partie de ce qu'on appelle les Five Eyes, c'est-à-dire les services de renseignement des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui partagent entre eux des analyses, des informations et des données collectionnées. Une fuite de tels détails appartenant à la GCHQ toucherait alors aux méthodes et sources de la NSA aussi. La question que je me suis demandée en découvrant ces informations était: est-ce que le bien public, dans le cas de la publication de tels détails, serait plus important que le risque de que des terroristes pourraient alors les découvrir et les exploiter à la suite de mon article? Pour moi, la réponse était non. Ça ne valait pas du tout le risque. Je vis en France, un pays qui est susceptible à des attaques terroristes, et je serais écœurée d'apprendre un jour qu'une attaque a pu être exécutée grâce à la découverte de mon article par un terroriste qui a ensuite réussi à contourner les contrôles sécuritaires des services grâce à mon article qui les a exposés. À mon avis, ce n'est alors pas assez que Snowden a pu voler des millions de documents et ensuite les donner aux journalistes et ensuite se laver les mains de toute responsabilité en disant que c'est à eux de décider ce qui serait correct à dévoiler au grand public. S'il a bien souhaité être prudent, c'est lui qui aurait dû faire un tri avant d'avoir téléchargé cette responsabilité sur d'autres. Et s'il croit bien que la fin justifie les moyens et que le grand public serait outragé par sa condamnation, qu'il se défend en justice, comme a fait d'autres lanceurs d'alerte qui sont bien sortis de leur propre affaire. Je parle ici par exemple de Daniel Ellsberg, l'analyste militaire du Pentagone, qui a exposé les fameux Pentagon Papers traitant des actions du gouvernement américain lors de la guerre en Vietnam. Faisant face à 115 années en prison, il fut enfin relaxé. Le précédent créé par un pardon pour Snowden serait insupportable. Qu'il revienne aux États-Unis tester sa conviction face au grand public américain dont il se croit le saint sauveur. Avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, Antoine Lefebure est historien français des médias et spécialiste des technologies de la communication. Il est notamment le créateur de la revue critique des médias électroniques Interférence, a lancé le mouvement des radios libres avant de devenir directeur du développement du groupe Havas. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « L'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde ». Bienvenue à l'émission.
Merci.
Et aussi à l'appareil, Yannick Harel est professeur en cyberstratégie et expert à l'Union internationale des communications. Il est également membre de la chaire de cyberdéfense Saint-Cyr Sogatti-Thalèse. Il est notamment l'auteur de deux essais remarqués sur la cyberstratégie russe et cyberstratégie économique et financière aux éditions Nuvis. Il vient de publier Automobile 3.0 aussi aux éditions Nuvis. Bienvenue aussi à l'émission, Yannick.
Bonsoir à vous et à tous vos éditeurs.
Alors, pour commencer, Antoine Lefebure, j'aimerais bien vous demander, parce que vous avez écrit tout un livre sur l'affaire Snowden, est-ce que vous croyez que ce qu'il a fait, grosso modo, serait bon ou mauvais pour la démocratie?
Il y a quelque chose d'important dont il faut se rendre compte, c'est que avant l'affaire Snowden, il n'y avait aucun débat au niveau des parlementaires et aucun débat de l'opinion publique sur les dangers de la cybersurveillance, de la surveillance électronique. Et après l'affaire Snowden, comme par miracle, il y a eu des dizaines de rapports de commissions qui se sont penchés, qui ont révélé un certain nombre d'abus qui avaient été à l'origine était trouvé dans les documents Snowden. Donc pour ça, ça a été très utile et on se rend compte qu'on a tout de même aux États-Unis un système de contrôle des systèmes de renseignement qui est un des meilleurs, qui est bien meilleur que celui qui existe en France par exemple. Et par habitude, par conformisme, pour des raisons assez étonnantes, ces parlementaires ne faisaient pas le travail et le travail a été fait après l'affaire Snowden. Donc oui, Snowden a eu un rôle très positif, même si, en faisant ça, il a rompu la nécessité du secret qu'il avait signé. Donc, il a fait quelque chose de répréhensible, et en même temps, il a servi la démocratie.
Yannick Harel, est-ce que vous êtes d'accord ou non?
Je suis entièrement entièrement d'accord avec Monsieur Lefébure. Hein. Effectivement, il y a eu un changement très net après les révélations d'Edward Snowden. En revanche, là où je suis particulièrement surpris, mais peut-être est-ce le biais d'un expert, c'est la naïveté dont ont fait preuve énormément de gouvernements vis-à-vis du système de surveillance globale qui a été révélé, notamment par certains outils comme PRISM ou XKScore, alors que je peux vous renvoyer un rapport qui a été effectué, une compilation d'articles et d'analyses du Parlement européen entre 1998 et 2002 sur le réseau Echelon. C'était des interceptions massives et là, je veux dire, on a eu énormément d'éléments comme quoi les Five Eyes, comme vous les avez appelés, hein, ces cinq États qui coordonnent leurs échanges d'informations, étaient à même de pouvoir écouter l'ensemble des communications mondiales. Donc je dirais Snowden a permis de mettre le pied sur l'accélérateur pour prendre une image, mais fondamentalement pour qui souhaitait chercher et pour les experts, ça n'a pas été une révélation fondamentale. En revanche, sur un plan technique, il y a eu une avancée considérable parce qu'il y a des outils dont on subodorait l'existence et qui finalement ont été révélés avec des détails extrêmement circonstanciés.
Antoine Lefébure, pourquoi est-ce que c'est tellement mauvais que les États aient la capacité de cette surveillance?
Le problème, c'est quand les États ont une capacité de surveillance absolument universelle, puisque aujourd'hui la technologie rend possible la surveillance potentielle de tout le monde, et si vous n'avez pas des organismes extrêmement puissants et extrêmement indépendants de l'appareil exécutif, la tendance du gouvernement, c'est déjà tellement difficile de gouverner un pays, il y a déjà tellement d'imprévus qu'on a une tendance à écouter évidemment les terroristes qui, comme par hasard, n'utilisent jamais ces moyens parce qu'ils savent que c'est écoutable, mais aussi les journalistes qui sont très intéressants, les avocats qui sont pleins de renseignements, les hommes politiques, y compris les hommes politiques de l'opposition, et s'il n'y a pas des systèmes qui organisent des arrêts en disant « non, vous ne pouvez pas » sous prétexte de secret, faire ce genre de pratique, vous avez des dérives qu'on a vues un peu à la NSA parce que Snowden, mais certainement dans d'autres pays où il n'y a pas eu Snowden, donc on ne sait pas. Et par exemple, en France, en Allemagne, on voit en Allemagne aussi qu'il y a eu des dérives énormes, même sans Snowden, puisque l'affaire Snowden a amené le gouvernement allemand à se préoccuper, d'abord parce que la chancelière Merkel a découvert qu'elle était écoutée, donc ça l'a contrariée. Donc elle a fait faire une enquête sur les systèmes américains, mais aussi sur les systèmes allemands, et là, elle a découvert plein de choses qui étaient, dans un pays démocratique, inacceptables.
Yannick Harel, on parle toujours ici des Five Eyes, des cinq États anglo-saxons, disons, de l'Ouest, mais bien sûr, ces capacités existent dans d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas et pourquoi est-ce que tout le monde s'espionne, tout le monde?
Alors, c'est un fait géopolitique et dans le cyberespace n'y fait absolument pas abstraction. On a toujours espionné les uns les autres. Un État, s'il entend être viable dans le temps, se doit d'obtenir et de former un système de renseignement extrêmement perfectionné. Je peux vous renvoyer sur des éléments durant l'Antiquité, notamment la Rome antique qui disposait d'un réseau d'espions qui était relativement perfectionné. Maintenant, effectivement, Snowden a franchi une ligne rouge qui était de dévoiler des éléments extrêmement techniques, mais il y a aussi cette préoccupation dans certains pays occidentaux, notamment de protéger les lanceurs d'alerte au niveau technique, et notamment les hackers qui ne sont pas obligatoirement du côté noir de la force, mais qui peuvent être aussi du côté blanc. On les distingue entre white et black hats. Je pourrais par exemple vous citer une initiative qui est celle de l'Islande, avec l'initiative islandaise pour la modernisation des médias, qui entend protéger les lanceurs d'alerte, et plus particulièrement les journalistes, dans le cas où ils auraient des informations relativement substantielles, à même de révéler au grand public des affaires de fraude ou de sécurité ou de surveillance généralisée. Mais il ne faut pas être naïf. Tous les pays au monde ont besoin d'un système de renseignement. La seule différence, c'est qu'il faut absolument un système de contre-pouvoir, c'est-à-dire ce que les Américains appellent checks and balances, pour permettre pour être sûr que les gardiens seront eux-mêmes surveillés, parce que tout pouvoir amène tôt ou tard à un abus de ceci, et c'est pour ça que Snowden, dans son esprit libertarien, a souhaité révéler ceci pour rétablir un peu l'équilibre.
Antoine Lefebure, c'est pas vrai que maintenant que tout ça soit dévalé, les systèmes qui sont en place vont être de plus en plus opaques, plus en plus secrets?
Non, il y a une lutte. Hein. Il y a une lutte permanente, c'est-à-dire que vous avez des pays qui virent à une absence de démocratie et à une grande capacité technologique. Il y a un véritable risque. Et si on parle tellement des Five Eyes, c'est parce que rien que la NSA, c'est 60 000 personnes. En France, c'est 3 000 personnes qui font le même boulot. Et en plus, la NSA couvre la terre entière avec l'aide de la Grande-Bretagne, du Canada, etc. C'est pour ça que la puissance est extraordinaire et qu'on en parle, et que les autres pays à côté, d'abord techniquement, sont beaucoup moins forts que les États-Unis, qui ont tout de même entre guillemets inventé l'internet. Et ça paraissait normal. Ça paraît d'ailleurs toujours normal aux dirigeants américains, en disant, ayant inventé l'internet et même inventé la téléphonie, il est normal qu'on puisse écouter n'importe qui dans le monde. Puisque, à la limite, ils sont chez nous. Et il y a d'ailleurs Brzezinski qui a dit, il y a plusieurs années, à des Européens qui disaient, mais c'est scandaleux, nous sommes des alliés des États-Unis, pourquoi est-ce que vous nous écoutez? Et Brzezinski a dit, d'abord, pourquoi est-ce que vous vous préoccupez d'être écoutés? Parce que si vous avez des conversations qui sont anodines, vous n'avez aucune raison de vous préoccuper. Deuxièmement, certes, vous êtes nos amis, mais pour vérifier que vous soyez nos amis, on vous écoute pour voir si vous n'allez pas changer d'avis ou changer d'opinion, notamment à l'occasion de crise. Et ça, c'était la bonne conscience américaine en disant, mais je ne comprends même pas pourquoi ça vous pose de problème.
Yannick Harel, pourquoi est-ce que ce débat n'existe pas avec une telle intensité en France?
Alors, c'est une excellente question. Le fait est que, tout d'abord, ni Snowden ni Julian Assange n'ont bénéficié d'un accord pour l'extradition et puis la protection de leur personne. Hein. On pourrait s'étonner d'ailleurs, parce que souvent on fait valoir quand même la tradition humaniste des droits de l'homme et de la philosophie des Lumières en France, et étrangement, ça n'a absolument pas eu d'effet en France. C'est-à-dire il y a toujours eu une fin de non-recevoir, comme si on avait peur de déplaire à une puissance tierce. Le fait est aussi que Snowden est un repoussoir, parce que il pourrait faire peur et il pourrait faire office d'émule pour d'autres systèmes de renseignement qui seraient tentés effectivement par leur tradition humaniste de se délier de ces chaînes, de rétablir un équilibre par leur seul cas de conscience et autres. Donc on va dire quelque part Snowden fait peur dans les pays occidentaux principalement, parce que pour certains gouvernants ça pourrait être véritablement l'existence d'un ver dans le fruit. D'ailleurs, je dirais que Snowden, à l'instar un petit peu de Jérôme Kerviel d'ailleurs, pourrait être l'un des derniers avatars de ces dysfonctionnements humains, entre guillemets, et pourrait accélérer une surveillance généralisée, algorithmique, qui écarterait l'élément opérationnel humain. Donc c'est en ça aussi que l'affaire Snowden pourrait bouleverser, c'est-à-dire d'abord parce qu'il a apporté, parce qu'il a révélé, mais aussi parce que, pour certains gouvernements, il faudrait passer à une phase purement techniciste.
Antoine Lefebure, est-ce que ce serait possible d'avoir un jour un Snowden en France?
Alors, le problème de la France et le problème de l'absence de débat et l'existence d'un Snowden, c'est que la France est très très intégrée au système de la NSA depuis de nombreuses années, notamment depuis nos interventions en Afrique du Nord et en Afrique noire, qu'il y a une aide militaire très importante et qu'évidemment on ne peut pas remettre en cause la politique de la NSA, même si les services secrets français ont découvert que la NSA écoutait l'ambassade de France à Washington et même avait planté un système d'espionnage dans le réseau informatique de l'Élysée. Ça a été confirmé par l'ancien directeur technique de la DGSE. On est tout de même très partenaire. Donc, si vous voulez, Le gouvernement français, alors à savoir le président de la République, puisque c'est au niveau du président de la République que ça se traite, le président de la République n'a pas pu prendre le risque d'accepter Snowden, ce qui aurait été considéré par le gouvernement américain comme une agression, alors que le gouvernement américain aide la France dans ses opérations militaires au Moyen-Orient et en Afrique. Et c'est pour ça que on n'a même pas examiné la chose, malgré la pression des organismes civils, et le gouvernement français a même pas fait semblant de se choquer de la position de la NSA et du fait que la NSA espionnait les systèmes français. Et quant à avoir un Snowden en France, ce qu'a expliqué les services secrets français avec une certaine morgue, en disant mais nous on n'est pas comme la NSA, on a des gens très sérieux, les gens qui s'occupent de l'administration système, c'est des gens qui ont 15 ans d'expérience, qui sont des gens qui sont vraiment habilités au secret et confirmés. Et on va jamais laisser un type de 26 ans qu'on a embauché deux ans plus tôt, qui n'a pas vraiment les diplômes et qui n'a pas vraiment les expériences, faire ce que Snowden a fait à la NSA, parce qu'on sait qu'il y a un risque. Donc, d'après eux, on a un risque très limité en France d'avoir l'équivalent d'un Snowden, ce que je crois être vrai.
Il y a Yannick Harel, d'accord ou non?
Eh bien, écoutez, moi, je vais sur cette histoire de volonté de ne absolument pas choquer un partenaire, pas un ami, parce que dans le cyberespace, il n'y a jamais d'amitié, il n'y a que des alliances circonstanciées. Et là, il y en a, comme vient de le rappeler Monsieur Lefebvre. Il y a un événement qui s'était passé lors de l'affaire Snowden, c'était le Monsieur Evo Morales, président de Bolivie, qui était pour une réunion à Moscou concernant les pays producteurs de gaz. Il souhaitait revenir donc chez lui, à la passe, et il s'est trouvé que il y a une rumeur qui a circulé, donc là on peut aussi gloser sur le rôle de l'information, y compris par les réseaux numériques, comme quoi Snowden serait dans son avion présidentiel. Du coup, il y a eu un emballement, et les autorisations de survol des territoires qui avaient été accordées une semaine avant, c'est-à-dire pour l'Italie, la France, le Portugal et l'Espagne, ont été refusées les unes après les autres. À telle enseigne qu'il a dû se poser en Autriche, et son avion, je crois qu'il était bloqué pendant à peu près une bonne dizaine d'heures, a été fouillé comme un vulgaire narcotrafiquant. C'est pour vous montrer tout de même la peur qu'a inspiré Snowden, et surtout le fait que ces pays se sont sentis obligés de répondre à une demande venant de l'extérieur.
Mais est-ce que, Antoine Lefebvre, est-ce que c'est vraiment réaliste de croire qu'un jour tout ça va changer?
Moi, je crois que ça va changer. Je crois qu'on va vers une société... Je prends des exemples comme la Suède, le Danemark, etc., qui sont des pays où il y a une surveillance, il y a des services secrets, mais ce qui est secret est extrêmement limité. Vous pouvez, par exemple, consulter online les notes de frais de tous les députés, de tout l'argent public, etc. La zone du secret est très protégée et très limitée. Et il y a d'autres pays, y compris des pays démocratiques d'ailleurs, où le secret est général, tout est secret, et la politique est secrète, et l'argent public est secret, donc il y a une méfiance généralisée, le contrôle des médias est secret, les médias eux-mêmes font des secrets pour ne pas être contrôlés, etc. Et je pense qu'il va y avoir une multiplication de lanceurs d'alerte dans tous les domaines, dans les domaines médicaux, dans les domaines de consommation, de gens qui sont révoltés, pas seulement par la politique des gouvernements, mais aussi par la politique des entreprises qui nous empoisonnent, etc., et que le secret va reculer, et que ça sera une très bonne chose, qu'on aura moins peur, et que si on a moins peur, on sera, plutôt qu'à d'être terrorisé par le terrorisme, on se sentira en confiance avec des gouvernements qui nous respectent et qui ne nous font pas de faux secrets. Et c'est cette force qui va nous faire changer, et non pas la multiplication du secret par des algorithmes ou par des systèmes de robots qui vont faire qu'on va être de plus en plus terrorisé et que la démocratie va de plus en plus mal fonctionner. Donc le terrorisme va devenir de plus en plus important et on va perdre.
Yannick Harel.
On pourrait prendre la parabole de l'épée et du bouclier, hein, c'est toujours l'épée qui gagne. Mais moi je dis effectivement que ça va changer, parce qu'il y a aussi une prise de conscience générale, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Et il y a ce fameux site qui a réuni énormément de personnalités, des artistes, des chercheurs, des fondateurs de grandes sociétés technologiques. Mais surtout, je vais vous ramener au XVIIIe siècle avec Benjamin Franklin qui avait exprimé qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Et je pense que ça, c'est fondamentalement ancré dans l'esprit américain, matiné d'un petit peu de destinée manifeste, mais je dirais l'antidote aussi à la surveillance généralisée et arbitraire se trouve aussi à la source directement du problème, c'est-à-dire aux États-Unis.
Et Antoine Lefebvre, peut-être pas avec Barack Obama, mais est-ce que vous croyez qu'un jour un président américain pardonnera Snowden?
Ça paraît mauvais. Certainement pas Obama, parce qu'il a mené une vraie guerre contre les lanceurs d'alerte. Je sais pas, Obama a un espèce de prisme bizarre avec les lanceurs d'alerte. C'est vraiment quelque chose qui lui fait peur, comme si lui-même se considérait comme un espèce de traître par rapport à des projets qu'il a montés, qu'il n'a pas pu réaliser. Donc il ne supporte pas que des gens le doublent, et il veut l'exclusivité un petit peu du c'est-à-dire que lui peut lancer des alertes, lui peut faire des fuites. Par exemple, c'est grâce à Obama qu'on sait que les États-Unis ont espionné l'Iran avec des logiciels, etc. C'est lui qui a fait cette fuite pour sa réélection, pour montrer qu'il était, et c'était une fuite très très grave au niveau technique, les gens de la NSA étaient absolument de foudrage. Donc il veut le monopole du lançage d'alerte, et c'est pour ça qu'il supporte pas d'autres gens. Donc les autres, il les punit pour garder son monopole, et je pense que les autres présidents américains voudront garder le monopole et continueront à persécuter les lanceurs d'alerte, malheureusement, parce que eux-mêmes vont continuer leur travail et eux-mêmes vont finir par changer la société contre les présidents.
Et Yannick Harel, en 30 secondes, est-ce que vous croyez qu'un jour Snowden sera pardonné par un président américain?
Pour l'instant, effectivement, Obama va être consulté sur cette notion de pardon présidentiel. On ne parle pas de grâce, mais de pardon aux États-Unis. Il y a très peu de probabilités que ça aboutisse. Donald Trump comme Hillary Clinton ont clairement exprimé leur refus à leur manière. Donc ce ne seront, à mon avis, pas déjà l'un des deux futurs candidats. En revanche, et je pense que c'est là où se situe la clé de la réponse à la question, c'est que pense le peuple américain des actions d'Edward Snowden. Mmh. Et c'est fondamentalement là, il faudrait consulter le peuple américain et non véritablement ses représentants pour savoir, pour qu'ils déterminent quel type de société ils souhaitent avoir pour l'avenir.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.